Allez, nous sommes toujours sur Radio Prévert. C'est un plaisir d'être avec vous, les CM2 de l'école Pasteur à la Flèche, dans le cadre des temps éducatifs périscolaires. Une émission spéciale avec des invités spéciaux que je vous demande d'applaudir. Ils ont eu la gentillesse de venir de façon très très spontanée, puisque nous les avons sollicités à la dernière minute et ils nous ont dit oui tout de suite. C'est dire qu'ils ont du cœur. Christophe Libert et Gilles Radet, qui sont des anciens marins, qui sont là donc à l'occasion des 400 ans de la Marine nationale. Vous savez qu'il y a une célébration prévue à Port-Luneau ce week-end, et puis sur Radio Prévert, nous en parlons déjà grâce à eux. Et je suis sûr que vous allez repartir avec tout plein de connaissances, vous avez plein de questions pour eux. Voici la suite des questions.
Quel pays avez-vous visité grâce à la Marine ?
Alors moi j'ai fait principalement l'Afrique, donc le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, Djibouti et ensuite le Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Après tous les pays côtiers de Méditerranée, la Grèce, la Turquie, l'Égypte. L'Italie, l'Espagne, et j'ai eu la chance de traverser l'Atlantique avec le porte-avions, où je suis allé aux Antilles, en passant par le Cap Vert, et on est revenu par la Guyane. Donc et puis bien sûr l'Europe, l'Écosse, l'Angleterre, tous les pays d'Europe.
Moi, j'en ai fait beaucoup moins que lui. On n'allait pas aux mêmes endroits, parce que nous à l'époque on faisait le Nord. On a descendu sur la Méditerranée, on a fait la Méditerranée aussi. Moi, j'ai fait Madère, j'ai fait Barcelone, ces coins-là. Mais avant nous, moi, j'ai fait le Nord, j'ai fait Rotterdam, j'ai fait Oslo, j'ai fait Hambourg, parce qu'on travaillait à l'époque, parce que c'était le moment de la guerre froide avec les Russes. Et on était très souvent, nous, ce qu'on appelait la croisière blanche. On était basé à l'époque à Brest, on n'était pas basé à Toulon. Et après, on descendait à Toulon. Et après, avec l'avion, j'ai fait là de l'Afrique également. Mais là, en escale, mais avec un avion, et pas avec un porte-avions. Avec un avion, c'est différent. Et voilà, à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. Quand c'est payé.
Quel est le plus beau paysage que vous avez vu ?
Enfin, moi, je suis amoureux de l'Écosse, donc je vais dire l'Écosse, où je trouve que c'est très joli. Après, l'Afrique comme le Djibouti ou le Sénégal, c'est très joli aussi. On voit des paysages merveilleux. Donc, je retiendrai principalement l'Afrique et puis l'Écosse.
Moi, le plus beau paysage que j'ai vu, il y en a beaucoup de beaux paysages qu'on voit si on s'attache à regarder. Mais le plus beau que je me rappelle, c'est l'arrivée à l'île de Madère un matin, quand il y a le brouillard et qu'on aperçoit un bout de l'île, la partie verte, et qu'en bas c'est blanc et en haut c'est blanc. Et c'est moi, c'est l'île de Madère, ça m'avait frappé. Là, c'était avec le porte-avions, parce qu'on a eu le temps de se voir arriver. Et en plus, on ne s'y attendait pas, comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas où on est. Et là, c'était vraiment une escale surprise. Parce que là, cette escale, elle n'était pas prévue au départ, quand nous sommes partis. Et comme on est resté très longtemps pour différents problèmes qu'il y avait à l'époque en Afrique, on est resté au large de l'Afrique, et on nous a accordé une escale à Madère, et ce qui était très très bien.
Avez-vous déjà vu des animaux marins impressionnants ?
Des poissons en Afrique, on pêche des poissons assez, assez gros qu'on ne retrouve pas ici dans nos rivières. Donc oui, des poissons, et après oui, des phacochères, des hippopotames. J'ai eu la chance de voler plusieurs fois, aussi bien en hélicoptère qu'en avion. Donc à ces moments-là, oui, on voit des animaux en dessous de l'avion, assez impressionnants.
Alors les animaux marins impressionnants, ben nous on en voit sur le porte-avions, on en voit à longueur de journée. Hein. On est accompagné en permanence par les dauphins. Et ça on en voit des journées. Ils nous raccompagnaient jusqu'à Brest en remontant du Gibraltar. Quand on passait le Gibraltar, on remontait avec eux tout le golfe de Gascogne. On montait avec les. Souvent ils sont derrière parce qu'il y a la Manche.
Oui, mais c'est fini, ça n'a plus le droit.
Hein?
On n'a plus le droit,
mais avant, au mode de montant, il y avait encore la Manche, il balançait tout ce qui était nourriture. Ce qui fait que les poissons, ils suivaient le porte-avions en permanence. Hein. Ça flottait derrière, maintenant on n'a plus le droit. Hein. Il faut qu'ils détruisent à bord. Alors nous, il rentrait dans la rade de Brest, parce que tu as entendu parler de la rade de Brest, il rentrait jusqu'à la rade de Brest, et les dauphins étaient derrière nous. Alors on les voyait passer à la proue du bateau devant, ils passaient en dessous, ils remontaient, et il y en avait des dizaines devant nous comme ça. Mais on n'y fait même plus attention. C'est dommage que maintenant, je voudrais bien encore les voir. On prend ça autre chose en plus.
Que souvenir vous avez encore vivre aujourd'hui?
Ah, des souvenirs rigolos, des souvenirs rigolos. Alors celle-là, je n'avais pas préparé. Des souvenirs rigolos. On a plein. Enfin, là. Des souvenirs rigolos. Le temps passé avec les copains en escale, à faire du sport, à faire l'andouille, des choses comme ça.
Quelle a été votre mission la plus difficile?
Djibouti, je pense. J'ai fait deux missions de guerre, hein, parce que c'était la guerre. Donc je pense que c'est celle-là où. J'en ai rarement parlé, il s'est passé plein de choses, j'ai vu plein de choses, j'en parle rarement, et en fait c'était la guerre entre le Yémen et l'Érythrée, ou l'Éthiopie et le Yémen, donc en fait nous on décollait, on partait jamais tout seul, on avait un peu comme sur la photo que je vous ai ramené, on partait avec des avions de chasse dans les ailes, parce que notre avion n'a pas de possibilité de se défendre, on n'a pas de missiles, on n'a rien pour se défendre à part un panier avec des leurres. Une fois qu'on a balancé le panier avec les leurres, bah on n'a plus rien. Donc cette mission-là, oui, dès qu'on décollait, on avait deux mirages dans nos ailes et puis on avait des gazelles, des hélicoptères en dessous pour nous protéger. Donc on allait faire du renseignement, on prenait des photos et dès qu'on décollait, il y avait des avions, des mercenaires russes qui décollaient et qui étaient pas loin, qui étaient prêts à tirer sur nous parce qu'on faisait des missions de surveillance. Donc oui, là, ça a été une des missions la plus dure. D'ailleurs, c'est cette mission-là qui m'a valu la médaille que je vous ai ramenée, la croix du combattant. Grâce à cette mission-là, j'ai eu la croix du combattant en faisant des vols en territoire hostile. Ah oui, la Légion d'honneur, elle est rouge, et on va retrouver plus... ça ressemble un peu, oui, ça fait une croix aussi, comme ça, la Légion d'honneur. Et la Légion d'honneur, il faut avoir fait plus de choses que je n'ai faites. Moi, je pense qu'aux militaires, donc je pense pas à d'autres personnes. Et il faut avoir fait des actions d'éclat, des choses comme ça, pour avoir la Légion d'honneur dans l'armée.
Déjà, ce que vous faites là, vous êtes en un devoir de transmission avec.
C'est bien.
On va écrire. À qui on peut écrire pour demander
Le devoir de mémoire.
Le devoir de mémoire.
Faire ça.
Ouais. Et vous, Gilles?
Moi, c'est pas quelque chose de très rigolo. Je ne parle jamais trop discuté. Bah, cette mission, oui, c'était un retour du Tchad avec 10 soldats décédés dans l'avion, derrière nous. Donc c'est une mission auquel on n'a pas de danger, mais c'est une mission difficile. Et c'est vrai que c'est une mission sans danger. Mais c'est une mission qu'on n'oublie pas. On les voit pas, hein, parce qu'on ne va pas passer notre tête, mais on les voit descendre. C'est pas mal déjà.
Gilles, vous avez parlé du Tchad, et en fait, ma tata, elle travaille sur les bateaux aussi, et elle avait été au Tchad.
Ah, oh, mais elle n'avait pas été avec le bateau.
Pourquoi c'était faire, mais elle avait été au Tchad en mission.
De toute façon, ils y vont encore. Hein.
En Afrique, on ne va plus du tout. En fait, on avait des accords de...
Moi, j'en parle d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. C'était au moment de la guerre du Tchad, où là, il y avait beaucoup de militaires engagés sur le terrain, et on avait des morts. Hein. Et malheureusement, moi, j'ai fait partie du convoi avec l'avion qui allait chercher ces malheureuses personnes qui avaient été tuées là-bas. Donc c'est pas... Il n'y avait pas que des marins, c'était des militaires, il y avait aussi des gens de l'armée de l'air.
Quel moment vous a rendu le plus fier?
Eh ben justement, on n'en a pas à donner. C'est pas à nous de dire, je suis fier d'avoir fait ci, ça, toute ma carrière, enfin voilà, puisque je fais encore aujourd'hui, parce que j'ai fait 18 ans dans la marine, aujourd'hui je sers encore dans la réserve. Je suis aussi président d'une association pour transmettre la mémoire. Je suis vice-président des anciens combattants. En fait, on est ce que pour moi, c'est, enfin, je serais fier jusque de tout ce que je fais jusqu'à la fin de ma vie pour justement transmettre ce que j'ai fait, puisque j'ai fait pour l'armée, hein, parce que j'ai transmis, on m'a appris un métier, je l'ai transmis, j'ai fini un instructeur au simulateur de vol, j'ai encore transmis ce qu'on m'a apporté. Donc, fier, non, je suis fier de toute ma carrière, j'ai pas un moment particulier.
Avez-vous gardé des amis de la marine?
Oui, j'ai plein d'amis hein, de la marine, mais après j'ai mon meilleur ami. On a passé toute notre vie scolaire à Rochefort la première année, et on est en contact régulièrement. Lui, il a aussi quitté l'armée. Et après on a une association. On est entre 300 et 400 et on se retrouve tous les deux ans. Donc en fait tous les deux ans, je retrouve des copains avec qui j'ai fait des missions, avec qui j'ai partagé plein de choses. Donc et j'ai encore d'autres contacts d'amis qui sont à Toulon. Aujourd'hui avec Facebook c'est facile, hein, on se retrouve, on peut échanger de temps en temps sans se voir. Donc oui, j'ai gardé beaucoup de contacts. En fait j'ai beaucoup plus d'amis de la Marine nationale que de gens que j'ai pu rencontrer dans mon parcours professionnel, dans le privé, enfin ou dans la fonction publique.
Et vous, Gilles ?
Bien sûr, malgré que c'est maintenant quand même relativement très vieux, et moi j'ai retrouvé encore l'année dernière, j'ai retrouvé un copain qui était avec moi à la 12F, et qu'on ne s'était pas revu, donc il y avait 50 ans qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Il n'y avait pas 50 ans. Et bon, on a discuté comme si on venait de se voir. Hein. Mmh. Oui, parce qu'on n'a plus le même truc, on pense comme si on avait encore l'âge du moment où on y était. Et on se revoit exactement ensemble au moment, et on pose les mêmes questions, et on ne demande même pas ce qu'il est devenu. C'est comme si on venait de se quitter. Parce que c'est là qu'on a les meilleurs copains, je vais dire ce que Christophe dit. Les meilleurs, je dirais même pas des copains, des amis, les meilleurs amis, c'est dans l'armée qu'on les a. J'ai jamais retrouvé, moi, cet échange avec les gars, c'est parce qu'on vit ensemble, on dort ensemble, on travaille ensemble, on en bave ensemble. Donc ça reste, et puis ça tout jamais, je crois qu'on n'oublie jamais, de toute façon, on n'oublie jamais les gens qu'on a connus. Certains, il y en a qu'on oublie, mais il y a des gens qu'on a bien bien regardé, et quand on est aussi content l'un de l'autre quand on se retrouve, hein, de toute façon. Hein. Et là, c'est par Internet hein, qu'il m'a trouvé, hein, mais bizarrement. Il a vu mon nom, puis moi, ça faisait moi chaque année que je sais pas combien d'années qu'il cherche après moi. Et moi aussi. Et moi, il m'a même retrouvé. Je vais même vous expliquer un truc. Je lui ai prêté, quand il est parti, lui, un cours qu'on fait après, hein, c'est-à-dire le cours de quartier maître chef pour être second maître. Il est parti au cours et moi, en même temps, j'étais muté et j'avais prêté ma poignée de sac de marin pour partir. Ben, il m'a renvoyé, 50 ans après, il m'a renvoyé ma poignée de sac de marin par courrier. Et il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois. Comment qu'on est attaché quand même entre nous, parce que c'est quelque chose d'attachant.
C'est vraiment énorme. Ça fait 50 ans que vous n'êtes pas vus et vous êtes retrouvés. Et je pense que ça vous a fait bizarre de rencontrer une personne que vous avez connue.
Oui,
il y a longtemps.
Ça fait bizarre et pas ça fait bizarre et pas bizarre dans la comme je viens de dire. On a l'impression que c'était hier. On n'a pas l'impression qu'il y a 50 ans, on compte pas les années. On entend sa voix, on le reconnaît. Et puis, on est tellement content de se retrouver, on perd 50 ans d'âge en plus. On se retrouve au même âge qu'on avait à l'époque. Et si on se rencontre, on boit une bonne bière. Hein. Oh, même deux.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Si vous pouviez revenir à un moment de votre carrière, lequel choisirez-vous ?
Alors moi j'en rêve encore, donc voler, voilà. Ouais. Monter dans l'avion et puis partir en vol avec les copains et puis partir en mission, partir en Afrique, partir. C'est ce qui manque le plus en fait.
Ouf. Je vais pas dire la même chose. Hein. Alors moi ce que je pourrais me rappeler de plus, c'est ma sortie de cours de BE. Quand on est breveté la première fois, puis qu'on a le premier galon sur les manches, puis qu'on a l'insigne aéro doré, c'est le seul dans la marine qu'on a l'insigne aéro doré. Et quand on sort, puis qu'on sort avec les copains, quand on démarre, tu vois, à l'école, au début, on était 21 dans la classe, dans le cours. On a fini à 13. Parce que c'est pas comme l'école ici, dans le civil. Hein. Tout en allant, ça, celui qui suit pas, c'est dehors. Bah, des fois, gentiment, déclasser un petit peu pour revenir avec les autres en arrière, ou c'est carrément, on repart dans le civil. Alors, je dis que, mais on travaille, par contre, on travaille beaucoup. Je veux dire, dans les écoles militaires, on travaille beaucoup.
Combien de morts ils sont...
Quand il y a des accidents, en fait.
Oui.
En fait, ça arrive... j'ai vu quelques pilotes partir. Genre, j'ai le souvenir d'un là qu'on vient, qui s'est crashé en Grèce dans une. Il y avait du brouillard. Il devait rentrer sur le porte-avions et comme le brouillard est monté, ils nous ont dit d'aller se poser en Grèce. Et en fait, il s'est pris la montagne qu'il y avait. Donc ça a été ça a fait bizarre, hein, j'ai pas vu que lui, mais lui je pense à lui parce qu'on a retrouvé des morceaux d'avion encore dernièrement, et on a mis la Marine nationale a mis une plaque en Grèce avec son nom au lieu de l'accident. Donc après, ce qui a été très compliqué pour moi, c'est que moi j'avais vérifié le siège le matin, en fait j'étais siégiste. Donc sur les avions de chasse, il y a des sièges éjectables, et avant chaque vol, il y a quelqu'un qui est formé à vérifier si le siège est aux normes, si les cartouches sont bien présentes, si on a enlevé les sécurités. Donc j'avais fait le siège le matin, alors en ne voyant pas l'avion revenir et le pilote n'a pas pu s'éjecter, ça a été un peu compliqué. En plus, il y a eu une enquête, et là, je suis passé sur le grill, comme on dit. Hein. Donc imaginez un gamin de 21 ans qui se fait questionner parce que le siège, bah, c'est lui qui avait fait le siège, hein, avant qu'il parte. Bon, le pilote n'a jamais pu tirer, enfin jamais, comme il n'a pas vu la montagne, il n'a pas tiré le siège, mais oui, il y a quelques, j'en ai vu à la 12F, je pense deux sur de mémoire, et un copain de basket avec qui je joue au basket sur à Nîmes, ils ont eu une panne de moteur et ils ont pris un rond-point avant de se poser à Nîmes. Ils étaient trois dans l'avion, il y a eu deux morts et puis il y a un grand brûlé qui a continué à faire sa carrière après. Mais oui, on voit des gens partir en mission malheureusement régulièrement, on en voit encore aujourd'hui, hein, donc ça arrive.
Quand vous étiez sur le porte-avions, est-ce qu'il y a déjà eu un feu qui s'est déclaré ou qui a déclenché ?
Alors je cherche dans ma mémoire, mais j'ai pas dans l'histoire de la marine. Il y a des feux sur des bâtiments, mais sur les porte-avions, ça a dû arriver. Hein, mais on a des pompiers qui sont en tenue de pompiers, qui sont prêts à intervenir tout de suite. Donc dès qu'il y a un feu qui se déclare, les pompiers interviennent rapidement, donc les feux sont vite éteints. Mais ça peut arriver.
C'était vous qui aviez fait le siège avant que, quand il est parti en Grèce.
Oui, c'est ce que j'expliquais. En fait, j'ai vérifié le siège avant que. Je me souviens plus si c'est moi qui l'avais posé, mais au moins j'ai vérifié toutes les sécurités du siège avant que le pilote parte.
Ça a dû vous faire mal au cœur de perdre des amis comme ça.
En fait, ça fait mal au cœur. Oui, on y est préparé, on s'y prépare. Après, on est triste. Hein. Après, il y a toute une cérémonie derrière. Donc ça nous suit toute notre vie parce que j'en parle encore aujourd'hui et puis on y pense. Puis je me souviens de son nom et de son prénom. Donc,
Chanson, on les oublie pas, hein, pour la simple raison, c'est que eux ils sont pilotes et nous on travaille tout le temps avec eux. C'est nous qui les attachons, ce qu'on appelle ça, on les brêle, on les attache dans l'avion, on retire les sécurités, on leur remet les sécurités. Et en fin de compte, on n'a pas le même travail, mais on se connaît tous et on les connaît. Ils nous connaissent, mais nous, on les connaît. On les connaît très bien. Souvent, ils sont beaucoup plus gradés que nous, mais c'est pas une raison. On fait partie d'une équipe à deux, hein, surtout le pilote et le patron, ce qu'on appelle les gens qui brêlent les pilotes, c'est les patrons d'appareil. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'eux entièrement. Quand ils partent, ils partent ou ils arrivent. Donc ça fait mal au cœur, c'est vrai. Ça reste marqué dans sa vie.
Gilles, tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à la question de Jeanne. Est-ce que vous avez vu, vous, des amis sur un porte-avions qui sont partis en mission et qui sont morts ?
Oui, j'ai vu des pilotes, oui. Bah, bien entendu, j'ai vu des pilotes partir sur, qui sont parvenus. Et on est tous bien marqués, hein, parce que ce sont pas des copains, parce qu'ils sont plus gradés que nous souvent, hein. Mais ce sont des gens qu'on voit tous les jours, avec qui on vit, qu'on aide à monter dans l'avion, qu'on aide à descendre de l'avion. Et c'est quand même des gens qu'on connaît, on reconnaît. Moi, j'ai eu des crashs, mais il y en a qui s'en sont bien sortis. Mais il y en a qui s'en sortent pas.
À quoi sert la Marine nationale ?
En fait, on est le deuxième territoire à avoir le plus de zones maritimes à surveiller. On appelle ça les zones économiques exclusives. Donc en fait, on a une multitude d'îles qui nous appartiennent et toute la 200 nautiques autour de toutes ces îles et de la France, enfin de l'Hexagone, on doit protéger ces territoires. Donc on a une marine nationale avec beaucoup de bâtiments, donc on doit protéger toutes ces îles. Donc la marine protège ces îles, par ces îles et puis le territoire. On est là aussi pour aller aider des pays avec qui on a des accords de coopération. Et on a beaucoup de Français qui sont partout dans le monde. Donc si demain on doit aller évacuer des Français, on servira de la marine ou de l'armée de l'air avec les bâtiments, avec les avions. Donc en fait, notre métier principal, c'est protéger les Français.
Ça concerne que la France, l'Europe?
La France, bien sûr, l'Europe, avec qui on a des accords économiques et politiques, mais on a aussi des accords de défense. On est les seuls à avoir la bombe atomique, donc on va défendre l'Europe. On a des pays amis qu'on peut aller défendre. On avait des accords de coopération de défense avec beaucoup de pays africains dans le temps. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Après, on est à Djibouti où on va, pareil, ils ont pas d'armée à Djibouti, donc c'est nous qui allons défendre. Et on a des accords de défense aussi avec les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Donc on va défendre aussi tous ces territoires-là s'ils ont besoin.
Est-ce que les marins protègent aussi les personnes en mer?
On fait du sauvetage. Moi, quand j'étais sur Atlantique 2, on est d'alerte à 2 heures. Donc, s'il y a une planche à voile qui disparaît, un bateau qui se retourne, on décolle en moins de 2 heures. Il faut qu'on décolle. Sous l'avion, il y a une grande trappe qui s'ouvre et on peut emmener jusqu'à 8 ou 6, je sais plus. 6 des gros cas, c'est aussi gros que ça. En fait, ça va se déplier. C'est des petits bateaux pneumatiques de survie. Donc, par exemple, qu'il y a un bateau, un voilier qui se retourne, ils sont en perdition, on peut décoller, on a toute une procédure et on va lui larguer un bateau pour qu'il aille dedans en attendant qu'un hélicoptère et qu'un bateau viennent les sauver ou un autre bateau.
Avez-vous déjà participé à un sauvetage?
J'ai cherché une planche à voile toute une journée qu'on n'a pas trouvée malheureusement. Donc ça fait partie de ces moments-là. Sinon, j'ai mes 3 dernières années de marine, j'étais le responsable de l'entraînement au sauvetage. Donc moi, je partais sur un petit bateau en mer au large de Nîmes. Et on était à un endroit. Les pilotes s'entraînaient à nous larguer on appelle ça une chaîne SAR, à larguer des chaînes SAR au cas où ils doivent intervenir un jour pour sauver des vies.
Pourquoi les océans sont-ils importants pour vous?
En fait, c'est important parce qu'il y a toute une vie derrière. Il y a des coraux à préserver parce que s'il y a plus de vie dans la mer, je pense qu'on n'aura plus de vie sur Terre. Donc, pour préserver tout ces espèces maritimes, les plantes qu'il y a en dessous, il faut préserver tout ça.
Vous faites pas que
la guerre.
Marin, vous faites aussi sauveteur en mer.
Oui, on peut aider le. Ah, c'est l'État qui a mis ça en place. Hein. On peut aider les gens en difficulté au cas de besoin. On a des hélicoptères aussi dans la marine qui interviennent pour aller sauver quelqu'un qui se casse un bras sur un petit bateau ou une jambe. On peut aller le secourir. Il y a un plongeur qui va descendre avec un treuil. On va récupérer la personne et puis on va l'emmener à l'hôpital directement.
Pourquoi fête-t-on les 400 ans de la marine nationale?
Eh ben c'est un anniversaire. En plus, on aime bien fêter les chiffres ronds. Donc 100 ans, 200, 300, 400 ans. Donc 400 ans, c'est important. Hein. C'est le cardinal Richelieu qui avait créé la marine pour aller explorer le monde et découvrir des nouveaux pays. Donc ça fait 400 ans que la marine existe. Donc on le fête et on espère aussi attirer des jeunes pour la marine nationale. Ça aussi un but de rayonnement pour que des jeunes s'intéressent à la marine nationale et à nos métiers.
Quel est le programme des 400 ans de la marine nationale?
À la flèche.
Alors les 400 ans de la marine nationale à la flèche. Donc je suis pas l'instigateur et moi je ne suis pas partie prenante. Donc c'est le Prytanée avec ses réservistes qui a décidé de faire ce programme. Donc le programme à partir de 13h30 à Port-Luneau, il y aura des expositions, animations, donc il y aura des maquettes, ateliers animés par des marins, balades en canoë sur le Loir. Il y aura une exposition de l'association du TCD, alors du transport de troupes. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Orage, l'orage. Il y a une association dans le Maine-et-Loire. Ils viendront exposer tout ce qu'ils ont. J'ai vu tout à l'heure qu'ils avaient une tenue de marin, des bateaux. C'est un maire aussi, comme moi, qui est réserviste et qui fait les mêmes choses que moi. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. À 14h au Monument aux Morts, il y aura la cérémonie militaire en présence de la préparation militaire marine. Donc on leur remettra leur macaron, leur diplôme, je sais plus. Et il y aura une cérémonie officielle avec des pots de gerbe, avec le maire de la Flèche et les élus en place. À partir de 14h40, il y aura l'aubade de la fanfare du Pritané et ouverture officielle du village marine de Port-Luneau. Et à 17h, au frais, au cinéma municipal Le Kid, projection gratuite du film Protégé. C'est un film qui a été réalisé dans le cadre des 400 ans de la marine. Il sera présenté et les marins répondront aux questions des gens qui seront au film. Voilà pour le programme bien complet.
Quels conseils donnez-vous à des enfants qui rêvent de voyager ?
Alors pas de voyager, d'apprendre un métier déjà, parce qu'avant tout la marine c'est apprendre un métier qui vous plaît et qui vous plaira tout au long de votre carrière. Après, avant de penser à voyager, il y a des marins qui voyagent jamais. Hein. Il y a des marins qui restent dans les bureaux, qui vont faire de la paye, du secrétariat. Il y a des marins qui vont rester sur les ports, hein, qui vont prendre une spécialité de, par exemple, de guetteur dans les sémaphores. Ils voyageront jamais. Donc après, il faut être prêt à partir loin, à partir longtemps. C'est pas toujours facile pour les familles. Donc il faut aussi être prêt que vos familles soient prêtes à ce que vous partiez. Il faut avoir le goût de l'aventure. Si on n'a pas le goût de l'aventure, il faut rester, faut trouver un métier un peu plus casanier et rester soit dans votre département ou un département limité, pas trop loin de votre famille. Donc, il faut être prêt à partir loin et pas avoir de regrets.
Bah, je vais couper un peu ce que dit Christophe, mais avant tout, il faut également penser, comme il vient de dire, qu'il n'y a pas que les voyages. Il faut dire que la marine, c'est également des militaires. Et donc il faut regarder aussi l'aspect militaire de la marine. Et Dieu sait que les marins sont très militaires, beaucoup plus peut-être que l'armée de terre, quoi qu'on en dise. Ah si. On s'attache beaucoup à la nation, on s'attache beaucoup au pays. D'ailleurs, si on fait pas ça, si on le fait, il faut savoir s'attacher à son pays, parce qu'autrement on ne fait pas. Hein, ceux qui ne s'attachent pas, ils ne le font pas. Mais il faut savoir que la marine, c'est la marine. D'ailleurs, quand on arrive, on fait de la formation maritime et on fait de la formation militaire. Ce qui prouve bien que c'est deux métiers qui vont ensemble. Mais on ne peut pas dire, je vais dans la marine pour faire marin, puis pas vouloir être militaire en même temps. Alors, si un jour vous avez envie de passer le pas, il faut savoir qu'il y a aussi de la rigueur dans la marine. Et la rigueur, c'est quelque chose de très important. Pas pour moi, en tout cas. Je crois pour Christophe aussi, hein. C'est là qu'on apprend, les grandes valeurs dans la marine, hein. Dans la marine et dans l'armée également. On apprend à respecter, on apprend à être poli, on apprend à dire bonjour, à dire au revoir, à dire merci. Et même quand on arrive à 20 ans, qu'on arrive dans la marine, on nous apprend à être poli et respecter les gens.
Que voudrez-vous transmettre aux jeunes d'aujourd'hui ?
Je le fais déjà transmettre, parce que le devoir de mémoire, ne pas oublier ceux qui ont été militaires, ceux qui ont été marins. Si aujourd'hui vous parlez français, c'est parce qu'il y a eu des militaires, il y a eu des jeunes qui se sont engagés pour défendre notre pays. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier le devoir de mémoire, se souvenir de ce qui s'est passé pour pas que ça recommence. Donc il faut se souvenir qu'on a besoin de militaires, on a besoin de se souvenir de ce qui s'est passé pour que notre pays ne soit pas de nouveau envahi. Donc se souvenir et participer à la vie de notre pays s'il y a besoin.
Ouais, transmettre également, moi, dire qu'en fait, c'est que dans la marine, comme dans l'armée en général, mais dans la marine surtout, il y a une chose, c'est qu'on ne se regarde pas ni de couleur, ni de pays d'où on vient, ni notre religion. Tout le monde est au même point. Et c'est là qu'on se fait beaucoup d'amis, malgré qu'on n'ait pas les mêmes bases au départ. Et on reste copains. Et il n'y a jamais de... Bon, il y a peut-être des disputes, mais je n'ai pas vu beaucoup de trucs, de beaucoup de disputes entre nous. Hein. On est là pour faire le même métier, on est là pour arriver à la même chose, et puis on travaille ensemble. Et puis c'est pareil, le respect aussi de ceux qui n'ont pas fait d'études, et puis ceux qui en ont fait un peu plus, on a le même. Et même entre grades, les officiers sont pas pour ça, ne crachent pas sur les plus petits. Il y a un respect entre nous, c'est une camaraderie, et on travaille pour le même pays, pour la même chose. Le respect dans tout, voilà.
Avez-vous quelque chose à rajouter ?
Eh bien, on est très heureux d'avoir participé à l'émission, de vous avoir appris un petit peu de la vie de marin, et peut-être de vous avoir donné envie à l'un d'entre vous de devenir marin plus tard, d'avoir un beau métier, de parcourir le monde et de profiter et d'être heureux dans ce métier-là.
Bah moi, je dois vous dire merci. Moi, c'est la surprise, je ne m'y attendais pas. C'est Christophe qui m'a emmené avec lui, et puis avec mamie là-bas. Mais bah, je vous remercie déjà d'avoir bien écouté, parce que vous étiez des enfants très attentionnés. Et ça fait plaisir de pouvoir parler de ce qu'on on aimait et ce qu'on aime encore, d'ailleurs. Parce qu'on dit toujours, hein, marin un jour, marin toujours. Voilà. Et puis, il y a un bel uniforme aussi, il faut dire. Hein. Pour les filles, c'est super. Ah, vous n'avez plus le droit de sortir en marin, dommage. Vous avez les photos pour montrer aux filles, quand même.
Merci beaucoup, messieurs Christophe Libert et Gilles Radley, d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience avec nous. Grâce à vous, nous avons découvert la vie des marins, les voyages en mer et les missions importantes de la Marine nationale. Nous vous souhaitons une très belle fête des 400 ans de la Marine à la Flèche. À bientôt pour une nouvelle émission radio. Merci également à Louisette.